Bonjour et bienvenue en 2050 dans le pseudo-documentaire de l'espace, saison 2, épisode 1, Chevalier Pêche. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire écrite par personne et dans laquelle figure Elior Dahlia. L'histoire commence dans la station technologique La Lanterne. Elior y est entré il y a un quart d'heure. Il était une fois Elior Dahlia, le dernier veilleur des rêves et de l'espoir humain, qui collectait les récits des habitants d'un monde épuisant. Équipé de son magnétophone, il parcourt les rues, posant inlassablement une question à celles et ceux qui croisent son chemin. « Que voulez-vous encore pour demain ?» Et les réponses varient. « Revoir la mer, des endives, une seconde chance. » Elior commence à assembler une machine en utilisant des fragments technologiques trouvés dans la station. Avec précision, il y intègre ses enregistrements et retranscriptions via une vieille disquette, s'assurant que chaque rêve et espoir collecté trouve une place dans la mémoire de l'engin. L'histoire raconte cette aventure en détail, ainsi que sa brève réception auprès d'Elior Dahlia, qui, à la fin, mourra après avoir créé un ami électronique. Dans ce podcast d'anticipation où tout est faux, découvrez la vraie bande originale d'un leurre empruntant tout du réel pour aborder les questions de la dépression verte. Présenté par le Dr John. Il était une fois, dans un monde rongé par les déchets présents du passé, une station technologique nommée La Lanterne. Située au sommet d'une dune mouvante, cette station scintillait de mille feux bleus comme un ciel étoilé reflétant la mer. Pour accéder à La Lanterne, il fallait suivre un chemin tracé dans le sable mouvant et ponctué de panneaux rouillés indiquant des directions très claires comme « Par ici pour l'infini, là-bas c'est par là, on est là, là. » Les moins audacieux devaient traverser un pont suspendu fait de vieilles plaques métalliques grinçant sous chaque pas. Enfin, une fois devant l'entrée principale, un mulot avec la boule au ventre demandait un mot de passe que seuls les initiés connaissaient. Le vent chante à minuit. Je répète, le vent chante à minuit. Elior Dahlia se présentait sous la forme d'une bougie vacillante, vivant dans la lanterne. Son existence était intrinsèquement liée à l'éther, cette substance volatile qu'elle consommait autant qu'elle diffusait dans l'air. Chaque fois qu'une de ses méchées se consumait, elle laissait s'échapper une odeur nauséabonde accompagnée d'une coulée de cire, un flux visqueux qui s'enroulait lentement en traînées irrégulières sur le sol. Ces traces laissaient derrière elle une cartographie éphémère, comme des souvenirs saturant l'atmosphère de la lanterne. C'était un phénomène hypnotique, presque mystique, où la lenteur de la cire semblait rythmer l'écoulement d'un temps mélodique et méditatif, en écho avec les battements fragiles de la flamme vacillante. Cette dynamique ne relevait pas seulement d'un processus physique, mais traduisait également une métaphore existentielle. L'effacement progressif des éléments constitutifs de son être, tout en s'efforçant d'en préserver l'essence éphémère. Bon, là, on ne comprend plus rien, recentrons-nous.
On comprend rien et puis on s'en fout.
Consciente de l'éphémérité de sa dernière mèche, Elior brillait avec une intensité qui défiait sa nature fragile. Chaque flamme consumée marquant un pas de plus vers l'extinction inéluctable. Elior Dahlia, la dernière veilleuse, ou le dernier veilleur, comme vous le sentez, moi ça m'est égal, était assise ou assis sur une chaise fabriquée avec des roues de vélo. Un colis postal, patiné à ses pieds, contenait le fusil de Tchekhov. Elior passait l'essentiel de son temps à jouer à l'Atari 2600. Son jeu préféré, Chevalier Pêche, plongeait les joueurs dans un univers où un chevalier armé d'une lance magique faisant office de canne à pêche devait récupérer des poissons dans des lacs enchantés. On ne va pas trop s'attarder sur ce jeu, ce n'est pas le plus important du tout, mais quelques précisions tout de même. Pour y jouer, il est idéalement recommandé d'être un chevalier en civil, assis sur une pierre cossue au bord d'un lac enchanté, les pieds dans l'eau. Votre arme, un noble bâton sculpté en canne, avec une ficelle au bout de laquelle pend un caillou. Chacun de vos gestes est une extension de la volonté chevaleresque. Voici comment jouer. Positionnez votre chevalier, vous ou un autre, au bord d'un lac enchanté en tenant la canne à pêche comme une lance. Lancez la ligne et visualisez le caillou touchant l'eau. Imaginez que chaque mouvement connecte les éléments, le chevalier, l'eau et l'horizon. Synchronisez vos gestes pour répondre aux vagues et attraper les poissons tout en restant alerte aux créatures hostiles. Lorsque vous capturez un poisson, prenez un instant pour contempler le lien entre vos actions et l'équilibre aquatique. Sinon, si le joueur ne disposait pas d'un vrai lac magique, d'un bâton et d'une ficelle, il utilisait traditionnellement le joystick CX40 pour contrôler les mouvements du chevalier sur un pont flottant mouvant. Une pression sur le bouton permettait de lancer la ligne magique, qui brillait d'une lumière arc-en-ciel, vers les profondeurs aquatiques. Mais attention ! Chaque poisson capturé pouvait se transformer en créature hostile à tout moment, obligeant le joueur à pivoter rapidement la lance pour déjouer l'attaque. Parmi les poissons mystiques, on trouvait le piranha prismatique, un poisson scintillant qui semblait inoffensif mais qui pouvait lancer des dards lumineux pour perturber le joueur. Le poisson cloche, une créature sonore qui déclenchait des ondes résonantes, susceptibles de briser la ligne si elle n'était pas déviée à temps. En plus de ces poissons, un mammifère marin apparaissait parfois, le dauphin grimpeur. Doté de ventouses sur ses nageoires, il pouvait escalader les parois du niveau pour attaquer le chevalier d'en haut, ce qui ajoutait une dimension stratégique complexe au gameplay. Les niveaux de chevalier pêche inversaient les attentes. Le jeu débutait avec une difficulté maximale, plongeant immédiatement le joueur face au big boss final, le terrifiant Kraken de corail. Ce dernier combinait des attaques imprévisibles de tentacules et de jets d'encre, réduisant la visibilité à l'écran. Pour vaincre, il fallait jongler avec le joystick pour esquiver les assauts, tout en utilisant la lance pour viser ses points faibles éclairés par des éclats intermittents. Du spectacle, quoi! À mesure que le joueur progressait, les niveaux devenaient de plus en plus simples. Les courants marins se calmaient, les tempêtes s'apaisaient, les objectifs initialement exigeants se limiter à capturer quelques poissons rouges en toute tranquillité, sur une mélodie aquatique apaisante. L'expérience, au lieu de croître en intensité, offrait une descente graduelle vers une mer d'accalmie ludique. Le dernier niveau, un moment presque contemplatif, invitait le joueur à simplement observer l'eau du lac. Les poissons, jusque-là hostiles ou insaisissables, nageaient paisiblement sous la surface, leurs mouvements créant des ondulations hypnotiques. La lumière changeante du ciel passait d'une aube éclatante à un crépuscule serein. Ce niveau ne demandait aucune action, si ce n'est d'apprécier la tranquillité et de réfléchir aux aventures passées. Une conclusion poétique et apaisante à une quête tumultueuse. Lorsqu'il achevait une partie, Elior était souvent immobile quelques instants, laissant la magie minimaliste des graphismes d'époque éclairer son visage.
Mesdames et messieurs, fatigués des discours alarmants sur la préservation des ressources naturelles, vous méritez une boisson qui célèbre le progrès plutôt que la simplicité. Découvrez Pétrolo, l'eau qui ne se contente pas d'être pure, elle est visionnaire. Fabriquée grâce aux procédés industriels les plus avancés, Pétrolo est fièrement enrichi en microparticules de plastique et minéraux rares directement issus des exploitations les plus audacieuses de notre planète. Oui, nous le disons sans détour, notre eau n'est pas neutre. Elle est volontairement impactante. Avec Pétrolo, chaque gorgée est un acte. Un acte qui affirme votre soutien masculiniste à une vision. Celle d'un monde où l'eau n'est pas fade, où elle porte en elle l'empreinte indélébile de notre ère industrielle. Car qui voudrait d'une simple source naturelle quand on peut goûter au futur ? Alors, tenez votre verre avec fierté, laissez le plastique effleurer vos papilles et montrez que vous refusez de céder à la simplicité naturelle. L'eau Pétrolo, parce que la modernité a toujours meilleur goût. Pétrolo, buvez l'avenir. Litri en plastique incluse.
Quand il ne jouait pas à Chevalier Pêche, Elior sortait de la lanterne pour interviewer les habitants du quartier. Ses apparitions, bien que rares, étaient remarquées par quelques âmes qui erraient encore dans les rues abandonnées. Muni de son magnétophone défraîchi, il s'aventurait dans les ruelles où chaque coin portait quelques souvenirs égarés. Elior marchait lentement, ses mouvements semblant calqués sur le rythme des battements de sa flamme. Les habitants, bien que souvent silencieux, finissaient par répondre à son interrogation obsédante. Chaque réponse était méticuleusement enregistrée par Elior, qui comptait les consignées dans un registre qui s'appelait « Registre ». C'était une disquette, je pense. Parfois, les passants restaient immobiles après avoir donné leur réponse, comme fascinés par l'idée que leurs rêves puissent dépasser les limites de leur présence et rejoindre un futur où ces fragments pourraient inspirer une nouvelle lumière. Pour Elior, chaque mot recueilli était une étincelle dans les ténèbres, une pierre ajoutée à l'ouvrage qu'il espérait léguer à des générations futures. Elior posait donc inlassablement sa question aux passants. « Que voulez-vous encore pour demain ?» Les réponses variaient. « Une pizza qui chante !» disait une femme avec un parapluie perforé. « Pour voir mon hamster. » Il s'appelait Harold, soupirait un vieil homme. Elior savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. En dehors de la lanterne, son essence même se consumait rapidement. À sa disparition, extinction totale des feux et de sa lignée, il ne resterait que l'obscurité, les ténèbres, les loups et le diable. Ses pas lents et hésitants le ramenèrent à la lanterne, refuge protecteur et source de son éclat. C'est là, dans cet espace étrange, qu'elle entreprit la construction de son dernier projet, une création qu'elle avait longuement mûrie. Un ami électronique capable de diffuser les témoignages recueillis dans la rue. Dans les entrailles poussiéreuses et éclairées par les lueurs des lanternes de la lanterne, Elior fouilla parmi des reliques oubliées de la technologie d'antan. Ses mains tremblantes mais précises retrouvèrent un lecteur de disquette quasi intact, au métal usé. Près de là, une bulle de verre brisée, autrefois partie intégrante d'une lampe holographique. Enfin, il déterra un bracelet à moitié fondu, vestige d'un passé où les montres portables rythmaient encore les vies humaines, écho lointain d'un monde désormais effacé. Assemblant ses fragments de mémoire, il s'attela avec une détermination presque désespérée à la construction d'une machine originale, un genre de bracelet-montre. Les heures s'étirèrent en une danse fragile entre création et introspection. Enfin, lorsque l'appareil fut achevé, Elior s'éloigna de quelques pas pour l'observer. C'était plus qu'une machine. Ça représentait un point de jonction entre la technologie rudimentaire du passé et une tentative désespérée de préserver son registre. Elior, concentré et méthodique, transféra un à un les fichiers contenus sur sa disquette registre dans ce nouvel appareil. Ces fichiers occupèrent presque toute la mémoire vive de l'appareil, soit environ 1440 kilo-octets. Lorsque l'appareil s'alluma, il projeta dans la bulle de verre un chat noir holographique qui bougeait avec une grâce mécanique. Elior, « Bonjour mon ami électronique !» Le chat holographique inclina légèrement la tête, ses yeux lumineux scintillant avec une lueur d'intelligence artificielle. Elior esquissa un sourire fatigué. « Nous avons tant à faire. commençons par le moins urgent, te trouver un nom, veux-tu? Que penses-tu de Takitaku le robot?
Le chat.
Pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus simple, comme Pixeltron?
Elior.
Pixeltron? Trop futuriste. Et puis, il n'est pas un robot de bande dessinée.
Le chat.
Alors, Mecha Ami? Un nom qui capture un peu l'essence de la mécanique et de l'amitié.
Elior.
Trop technique. On dirait le manuel d'une imprimante 3D.
Le chat.
Bien, bien. Que dirais-tu de Electrami? C'est chaleureux, non?
Elior.
Electrami? On dirait un produit ménager. Oh non. Ça doit être quelque chose de plus fluide et adaptable.
Le chat.
Adaptable? Alors créons une règle flexible. Mon nom pourrait s'accorder en fonction des pronoms ou articles qui me désignent. Une priorité contextuelle, si tu veux. Par exemple, Mae pour mon ami électronique. Tae pour ton ami électronique. Nae pour notre ami électronique. Vae en cas de vouvoiement ou de pluralité pour votre ami électronique. Lae pour l'ami électronique. Wawe pour un ami électronique, etc. Alors que l'appareil tentait d'adapter cette procédure de nommage à ses protocoles, un conflit interne de priorité se déclencha. Les ressources de mémoire étaient insuffisantes pour supporter la complexité des règles contextuelles de nommage. En une fraction de seconde, l'appareil fit un choix fatal. Il effaça l'intégralité des données transférées depuis la disquette au registre pour allouer l'espace nécessaire à l'implémentation du système. Elior observa avec stupeur le message d'erreur apparaissant sur l'interface lumineuse. Fichier du registre irrécupérable, mémoire pleine. Les rêves, les espoirs, tout ce qu'il avait collecté au fil des années était perdu à jamais. Le chat holographique reprit calmement.
Elior, je suis désolé, mais mon nom est maintenant défini. Je suis Mae, mon ami électronique.
C'était l'épisode Chevalier Pêche du pseudo-documentaire de l'espace. Nous sommes le lundi 10 janvier 2050 et il est 10 heures passées de 13 minutes si les questions de temps intéressent quelqu'un. Soyez rassurés, aujourd'hui vous avez entendu une histoire fausse, écrite par personne, mais dans laquelle figurait Elior Dahlia et pour laquelle est proposée une vraie bande son. Il était une fois une planète si polluée qu'Elior Dahlia, une flamme de lanterne, souhaitait consigner dans une machine électronique les rêves de chacune et de chacun avant la disparition complète de l'espèce humaine. Trop affairé à jouer aux jeux vidéo, il avait négligé l'importance de la quantité de mémoire de sa machine. Pour Elior Dahlia, c'est fini, la flamme s'éteint. Sae, son ami électronique, se retrouva seul. Un jour, le facteur arriva, l'attrapa et le mit dans le colis postal à destination d'une certaine Rose Belmonde. Mais cette histoire sera celle de la prochaine émission, Rose Belmonde, à paraître dans un mois. Dans ce podcast d'anticipation où tout est faux, découvrez la vraie bande originale d'un leurre empruntant tout du réel pour aborder les questions de la dépression verte. Présenté par le Dr John.